franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Vous avez juste de la largeur pour deux bateaux à peu près. Hein.
C'est comme ça tout du long, jusqu'à Brest. Hein. Enfin, jusqu'à Redon en tout cas.
Ah, jusqu'à Redon, bah, tenez, vous avez encore les plaines de Guingouette, qui ressemblent un petit peu aux plaines de Mazerolles, mais beaucoup moins larges.
C'est à Redon que se croisent les deux grandes lignes de canalisation de la Bretagne, celle qui, du nord au sud, relie la Manche à l'océan, et l'autre qui joint l'est à l'ouest. Aujourd'hui, le canal de Nantes à Brest et ses bagnards. Le canal fête ses 200 berges cet été. En juin 1811, le décret de construction est signé par l'empereur Napoléon. Les travaux commencent aux deux extrémités. La restauration ensuite accélère le chantier, mobilisant des milliers et des milliers d'hommes, des travailleurs libres et des bagnards, pour s'attaquer aux passages les plus difficiles, là où il faut trancher des biefs et organiser les passages de bassin à bassin. Ainsi, dans le village du sud des Côtes du Nord, aujourd'hui on dit les Côtes d'Armor, dans le village de Glomel, où notre invité a passé son enfance dans une ferme toute proche du nœud du canal. Jean Kergrist, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean Kergrist, vous êtes acteur, metteur en scène, vous êtes resté en même temps un paysan farceur et rieur, vous avez passé votre enfance tout près de la tranchée de Glomel construite par des bagnards. À ces bagnards, vous avez consacré deux livres qui ont eu beaucoup de succès en Bretagne, aux éditions Keltia. Mais l'idée, au départ, c'était de leur consacrer un spectacle.
J'étais parti avec cette idée, et pour ce faire, j'avais pas grand-chose. J'avais juste un petit opuscule d'une vingtaine de pages, fait par un ingénieur des ponts et chaussées. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'irais pas très loin avec ce qu'il pouvait raconter, parce que c'était bourré de contradictions. C'est ce qu'on appelle la critique interne d'un document, c'est-à-dire qu'il se contredisait lui-même. Et pour faire un spectacle avec ça, on ne pouvait pas aller très loin. Donc je me suis dit, je vais aller aux archives. Je pensais résoudre les grands problèmes que je me posais, les questions auxquelles je voulais répondre en 4-5 jours, 8 jours peut-être. Et 2 ans après, j'y étais encore.
C'est en allant aux archives qu'on devient, même quand c'est pas son métier, historien. Parce qu'un texte tiré de l'oubli, une parole jaillie du silence, c'est l'histoire et c'est plus qu'un roman. Et ça vaut tous les romans.
Ça vaut tous les romans. Et heureusement que cette profession très humble qui consiste à archiver, à conserver, pour on ne sait trop qui, on ne sait trop quoi, parce que la profession d'archiviste, c'est une profession qui ne sert que si quelqu'un passe derrière pour faire une recherche. Et sans eux, on sera un petit peu comme des aveugles, sans canne, lâchés dans un labyrinthe de l'histoire, en fait, par les ruelles, et on n'arriverait pas à se guider. Et je pense que j'ai été bien guidé dans mes recherches. Enfin, c'était pas tout à fait nouveau pour moi, parce que j'avais quand même une petite formation historique au départ, Jean.
Oui, parce que vous connaissiez le poids de la parole pour avoir fait des études d'écriture sainte, voilà. La critique des écritures. Qu'est-ce qu'il est devenu, votre professeur d'écriture sainte ?
Ben, j'ose pas trop dire, il est mort depuis, mais on lui prédisait un destin d'évêque et il s'est retrouvé un samedi soir dans un talus avec sa deux chevaux, avec un contrôle, ce qu'on appelle en Bretagne le contrôle bignou. Il était curé de Guingamp.
Il va être question beaucoup d'eau de vie, mais d'abord d'eau. Alors, l'eau des canaux. Alors, l'histoire française de la navigation intérieure, elle commence au XVIe siècle, canalisation de la Vilaine, en Bretagne, dès la fin du XVIe siècle. Et l'idée est double. Il y a un intérêt stratégique à construire des canaux. Il y a un intérêt économique. Voici, extrait des archives de France Culture 2000, surpris par la nuit, une interview d'un monsieur qui s'appelle Kader Benferrat.
Ah, Kader. Kader, c'est difficile de parler des canaux sans y mettre Kader.
Oui, mais Kader Benferrat, il est né au Sahara.
Il est né au Sahara. C'est d'où ça, comment dire, quand il est arrivé en Bretagne, il a été complètement séduit par les canaux. Il y avait de l'eau partout et c'était une richesse à laquelle lui, comme Touareg, fils de filatoire. Et pas tout à fait filatoire, comme fils de Kabyle, il n'était pas du tout habitué.
C'est toute une aventure humaine sensationnelle et formidable, puisque aujourd'hui on nous dit qu'il faut désenclaver le centre-Bretagne pour des raisons économiques. Mais ceux qui ont conçu le canal, c'était dans le même état d'esprit. Il n'y avait pas de route, il fallait absolument utiliser les voies d'eau. Et puis avec les guerres napoléoniennes, il devenait stratégique plutôt qu'économique. Et on a essayé de rejoindre Brest, Lorient, Saint-Malo et Nantes pour des raisons stratégiques, puisqu'il y avait le blocus continental et il fallait absolument approvisionner Brest et Lorient par l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé une véritable aventure humaine et une véritable prouesse technique.
Ça permettait à tous les points du territoire breton d'être à moins de 15 km d'un lieu qu'on pouvait atteindre par l'eau, soit par la mer, avec des rias, des rivières qui rentrent, comme le Jeudi ou le Trieux, ou alors d'y accéder par le canal. Et c'est ça qui a donné l'impulsion, sans doute, pour la construction.
Jean-Pierre Gestin, qu'on entend après Kader Benferrat, il ne dirait volontiers que la Bretagne intérieure, votre pays natal, c'est pas un Sahara, c'est une Sibérie. Avant le canal.
Le mot, est, je l'ai retrouvé aux archives, c'est une commission qui s'est mise à plancher sur les canaux. C'est partout en France, hein, partout il y avait des canaux. C'était en 1829 plutôt. Et les sous commencent à manquer dans les caisses et on se demande ce qui va aboutir à la révolution de 1830. Et on se demande s'il faut continuer les canaux. Alors il y a des commissions qui plongent un peu dans tous les départements, traversées par un canal. Et la commission des Côtes du Nord, très vite, pond un rapport d'une trentaine de pages décrivant le pays de Centre-Bretagne comme étant le bout du monde. Et avec cette expression, la Sibérie de la Bretagne, pas un chemin praticable, pas même un légume le plus usagé, le pain le plus commun, des fumées infectes devant les maisons. Et surtout, il conclut, c'est le manque de communication qui a fait de ce pays un pays de sauvages. Et en plus, il y avait plein de mendiants, des gens au bord des routes, des ivrognes, tout l'état.
Pour l'état. Faire passer les bateaux du commerce dans ce pays de charrettes, je n'ai pas dit d'ivrognes, il fallait des prodiges techniques et la participation de beaucoup, beaucoup d'hommes, alors des travailleurs libres et des bagnards.
Les travailleurs libres, ça a toujours été un problème parce qu'on avait du mal déjà à en trouver. Il a fallu envoyer des prêcheurs qui allaient dans les grandes villes extérieures à la Bretagne, sur le pourtour près de la mer. Ils allaient à Vannes, ils allaient à Brest, à Saint-Brieuc, recruter des recruteurs pour essayer de trouver des ouvriers libres. Le préfet a même pris un arrêt anti-mendicité en se disant si j'interdis la mendicité, ils vont peut-être venir travailler au canal. Donc les ouvriers libres, c'était déjà un problème. Pour tout ce qui était des lots, il y a eu des adjudications par lot. Alors, un des lots posait encore plus de problèmes que les autres. C'est le lot numéro 6, le lot qui consistait à mettre en communication les deux bassins versants, d'un côté sur Brest, par l'Aune, et de l'autre sur Nantes, par le Blavet. Et là, on était sur des marais d'altitude, à plus de 200 mètres. Et le projet, pour avoir assez d'eau pour pouvoir faire passer les péniches, était de creuser une grande tranchée de 23 mètres.
Donc ça, c'est votre village, Glomel. Et c'est là que vient l'idée de recourir à des travailleurs forcés.
Et voilà, c'était dans le cahier de charge. Et on imagine que les bagnards, qu'on appelait aujourd'hui les bagnards, mais à l'époque on les appelait les condamnés, qui n'ont rien à voir avec les bagnards de droit commun de Brest d'ailleurs, au passage, parce qu'il y a souvent les gens qui font la confusion, le fait de recourir à des condamnés était inscrit dans le cahier de charge. Et c'est le seul endroit sur le canal de Nantes où ça a été le cas. Il y a eu des prisonniers espagnols qui ont travaillé du côté de Redon, qui ont travaillé sur un autre bief de partage également, du côté de Blain, entre l'Isac et l'Erdre. Mais pour ce qui est des condamnés militaires, le seul camp militaire, ça a été celui de Glomel.
Condamnés militaires, c'est-à-dire c'était des gens qui refusaient de faire la guerre? Parce que la restauration qui a lancé la mobilisation pacifique pour les canaux a aussi lancé la guerre contre l'Espagne.
Républicains espagnols, le propos de Louis XVIII, donc, qui a hérité de l'Empire napoléonien, c'était de mettre un Bourbon sur le trône d'Espagne et de récupérer des conquêtes napoléoniennes. Donc il assurait en quelque sorte l'héritage. Mais ce faisant, il y a plein de gens, qui, surtout des gens qui avaient servi l'empereur, des grognards, il y en avait encore à cette époque, on est en 1822, refusaient de servir la guerre d'Espagne. Il y avait la conscription qui faisait 8 ans, c'était très longue. Et quand on tirait le mauvais numéro, il fallait y aller, à moins de trouver quelqu'un qui achète le rôle à sa place. Il y avait des retardataires, il y avait des gens qui avaient fait le coup de main contre leurs supérieurs, mais ils étaient tous militaires.
Alors, on leur aménage un camp, non loin de votre ferme, à la tête du chantier. Vous allez découvrir...
J'habite une ancienne ferme, je ne suis pas fermier.
Oui, mais de la ferme de votre enfance. Voilà. À la tête du chantier, vous découvrez, grâce aux archives, des personnages étonnants qui méritent d'être tirés de l'oubli. Le corps, d'abord, c'est l'ingénieur des ponts et chaussées.
Un jour, les bateliers qui emprunteront cette ligne de partage du canal de Nantes à Brest vous remercieront du fond du cœur. Vous allez gagner votre liberté en permettant à ce pays d'accéder à la richesse économique. N'est-il pas de plus beau salut que celui né du travail des hommes ? Sous vos défroques de condamnés, n'oubliez jamais que vous restez des hommes, car c'est ainsi que j'entends vous traiter.
Le plaisir, quand on est aux archives, de découvrir les carnets de l'ingénieur des ponts et chaussées. D'un côté, sur la face A, il y a les lettres et toutes les réflexions techniques. Et puis quand on retourne le carnet...
Ah oui, alors il était un grand amoureux de poésie, un grand amoureux de littérature. Et il recopiait toutes les figures de style de l'éloquence. Et il les répertoriait. On sentait que c'était quelqu'un qui travaillait sur ce sujet, l'éloquence, et qu'il n'avait plus assez de papier. Donc il utilisait ses carnets à l'envers pour écrire ses lettres concernant le bagne de Glomel.
Oh, il est assez éloquent, l'interprète du téléfilm de Pierre Mathiotte qu'on entendait, qui s'intitule « Les bagnards du canal de Nantes à Brest ». L'autre dirigeant, c'est l'adjudicataire des travaux qui pose des questions judicieuses à un personnage important du camp, l'agent comptable.
Combien gagne un condamné ?
Comme les ouvriers libres, 1 franc par jour. Nous retenons bien sûr les 3/4 pour compenser nourriture, habillement, hébergement et soins.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais modifier cette règle.
Elle a été fixée par le préfet, le comte de Bagneux.
Jusqu'ici, la régie était assurée par les ponts et chaussées. Étant l'attributaire de l'adjudication, j'entends mener ce chantier à ma façon.
Ma foi, monsieur Bellet, c'est vous qui payez.
J'entends intéresser les hommes aux fruits de leur travail.
Ce sont des condamnés.
Raison de plus pour les ménager.
Vous pensez les augmenter de combien ?
Ce n'est pas ainsi que je vois les choses. Désormais, ils seront payés au volume déblayé.
Et qui calculera ces volumes ?
Je vais organiser le chantier en escouade de 13 hommes. Chaque escouade remplira une charrette. Mes contremaîtres n'auront plus qu'à compter les charretées. Chaque escouade sera payée en conséquence de son travail.
Cette manière de faire me semble assez, disons, inhabituelle, pour ne pas dire révolutionnaire.
Alors ce révolutionnaire, encore jeune conducteur de travaux, là aussi vous l'avez débusqué grâce aux archives, a eu un destin extraordinaire après.
Oui, parce que je l'ai suivi, j'ai trouvé tellement étonnant la façon dont il organise le chantier. Et à un moment, par exemple, sous Charles X, le successeur de Louis XVIII, il n'y a plus une élection en France, et la liberté de la presse a été supprimée, ce qui aboutira à la révolution aux Trente Glorieuses.
Et aux trois seulement trois.
Trois glorieuses, pardon, vers le 30 juillet 1830. Et les seules élections qui existent encore, c'est à l'intérieur du camp de Glomel. En France, il n'y a plus que là qu'on élit. Les escouades de 13 hommes élisent leur chef. Alors celui qui est à l'origine de tout ça, qui est un personnage fascinant, qui est républicain, alors qu'on est en pleine royauté, le chef du camp, le directeur du camp est royaliste, le lieutenant de trompette qui commande les gendarmes est royaliste. Lui, il est républicain, il s'affiche comme tel. Et il va avoir un destin extraordinaire. Alors, je l'ai suivi après, évidemment, pendant des années. J'ai continué mes recherches en Suisse jusqu'à Neuchâtel, où il est mort.
Et pourquoi est-ce qu'il est mort à Neuchâtel ?
Il est mort après l'échec de la Commune. Il a été le doyen de la Commune de Paris en 1871, délégué du 5e arrondissement, à côté de Vallès, Garibaldi, etc. Et après l'échec de la Commune, il s'est exilé dans le Jura suisse qu'il connaissait bien à cause des horlogers. Il faisait partie de la première internationale socialiste.
Il a été à deux doigts de devenir bagnard après la Commune. Alors les bagnards du temps de Bellet quand il est encore jeune, comment vivent-ils alors, dans des hangars? Vous avez reconstitué la maquette, le palais de chaume.
Il fallait rentrer dans le concret. Quand on fait un spectacle, en plus de faire une recherche historique que j'ai faite un peu par hasard, il se trouve que j'ai écrit tous les documents que j'avais récoltés, je m'en suis servi pour faire des bouquins. Mais au départ, c'était pour faire un spectacle. Et dans un spectacle, il faut être concret, il faut donner une silhouette, un âge aux gens, il faut leur créer un lieu. Donc il me fallait faire du concret, j'ai donc reconstruit cette maquette assez grande, qui me permettait de jouer dans le spectacle à l'intérieur, comme un castelet de marionnettes. C'était des braquements en chaume, en bois, avec doublé à l'extérieur de gazon, c'était des mottes de terre, dans lesquels les hamacs servaient de lit. Il n'y avait pas de lit parce que c'était tellement humide, c'était dans des marais. Et ils avaient au pied des sabots parce que les souliers, les coutures des souliers militaires ne tenaient pas. Donc c'était des sabotiers du coin qui ont très vite compris l'aubaine. Et dans ce quadrilatère, au centre duquel il y avait les cuisines, il passait par un grand porche, sortait pour aller sur le chantier, il se divisait en quatre sections.
Vous avez reconstitué le chemin.
J'ai trouvé le chemin, oui, en quatre endroits différents.
Avec une faucille, une serpette.
Oui, avec une prime à faucille au départ. Ouais. Également pour dégager la fontaine, qui est aujourd'hui accessible. Avec un groupe d'amis, on a dégagé la fontaine et, il y a un an. Et aujourd'hui, donc, on espère bien un jour... La reconstruire à l'origine, comme à l'origine.
L'humidité est telle, les brouillards se lèvent plus souvent qu'à leur tour, qu'il y a le palu dans le monde émergent. Il y avait le palu en Bretagne intérieure,
oui,
en 1825-1830.
Sauf que personne n'est capable de l'identifier, personne ne sait que c'est le palu, puisqu'il faudra attendre la fin du 19e pour... Et que c'est un Français d'ailleurs qui va découvrir l'agent transmetteur, le protozoaire. Et ici, ils appellent la maladie du nom d'un de ses symptômes, la fièvre intermittente.
Oui, mais en Bretagne, on a du génie, pas pour identifier la maladie, mais pour trouver une solution.
Alors, il n'y a pas qu'en Bretagne, à l'époque, c'était une solution qui était déjà mise en œuvre sur les vaisseaux de la Royale. Et il y avait à Restrenant, où se trouvait un hôpital militaire tenu par des bonnes sœurs pour l'occasion, un docteur, Gouelot, et qui avait fait la Compagnie des Indes, et qui avait remarqué qu'il y avait une médication qui luttait assez bien contre cette fièvre intermittente. C'était d'adjoindre à de l'eau de vie de cidre, une dose de quinine.
Et au petit matin.
C'est-à-dire qu'ils avaient droit à 2 litres de cidre par jour, dont 1 litre à boire le matin. Pour lutter contre les fièvres intermittentes, on leur avait donné aussi un quart de vin. Et après, on donne un boucharon de niol, c'est-à-dire un 16e de litre. Et j'ai calculé que ça faisait à peu près 1,5 g. Pour partir au boulot.
Ces hommes rudes ne se couchent que pour mourir. Vous auriez rêvé, comme les gens du collectif des morts de la rue aujourd'hui, de redonner un nom à tous ces disparus. Vient un moment où les archives passionnent, retiennent, mais vous êtes comme sur un chemin de halage, vous avez envie d'enlever le harnais puis de vagabonder dans les prairies. Vient un moment où on a peut-être envie de faire de la fiction.
On est un peu hanté, comme dit quelqu'un, une phrase que j'ai retenue, hanté par ceux qui nous parlent, par les tombes entrouvertes. Et on a envie de leur donner chair. Et, parce que le problème des archives, c'est qu'il n'y a que les dominants qui déposent leurs témoignages, leurs rapports, leurs lettres. Et l'histoire ignore souvent ceux qui ont mouillé leur chemise, ce que vous appelez aussi l'immense peine des hommes, à la suite de l'historien Georges Duby. Et cette immense peine des hommes, j'ai eu envie, moi, de la retraduire. C'est pour ça que j'ai fait un deuxième bouquin, en me mettant dans la peau d'un de ces bagnards.
Le premier, les bagnards du canal de Nantes à Brest, et puis le deuxième, bagnard en carnaval, où vous imaginez la correspondance d'un bagnard à qui manque la liberté et surtout la tendresse.
Voilà, et qui reste là des années et des années. Et j'ai essayé de me mettre dans sa peau en essayant de reconstituer ses conditions de travail.
Et il commerce avec la chouette, avec les grenouilles, avec les animaux.
Ben, ce qu'il trouve.
Et puis, il rêve de libération et participe à une émeute avortée qui se transforme en balade autour de Pontivy aller-retour sous la conduite de Bellet, l'adjudicataire de travaux. C'est après les Trois Glorieuses de 1830.
Condamné ! Écoutez-moi ! Charles X est en fuite ! Paris en 3 jours l'en a chassé ! Vous n'êtes plus des esclaves ! Sortez de ce trou à rats ! Vous êtes libres ! Voyez flotter l'étendard de la liberté !
Il nous faut des papiers attestant notre libération, les gars ! Nous sommes tous militaires ! Et quel que soit le régime politique, royaliste ou républicain, on dépend encore tous de l'armée ! Est-ce que vous l'autorité militaire ?
À Pontivy.
À Pontivy, les gars ! Marchons sur Pontivy !
Ouais, ouais, marchons sur Pontivy !
Marchons sur Pontivy !
Ouais, ouais, avec nous, les gars ! Avec nous, les gars !
J'étais à la guerre au fond d'une tranchée. Je voulais plus la faire et j'ai déserté. Ils m'ont attrapé, je suis condamné aux travaux forcés pour de longues années. Toute la journée, je creuse une tranchée. Des sabots aux pieds, un fusil braqué m'haute sur le dos et les pieds dans l'eau. Charrie les cailloux, le sable et la boue. Après 5 années, ils m'ont libéré. Fini la tranchée, fini les pieds gelés. Le canal est creusé et l'eau peut couler. Ouvrez les vantaux, passez les bateaux.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Grist, la Gouers, composée récemment en l'honneur des bagnards de Nantes-à-Brest, interprétée par
Marie Gélis.
Après l'évasion ratée de 1830, c'est un nouveau drapeau qui flotte sur le camp, un drapeau tricolore.
Et le paradoxe, c'est que la direction change et les bagnards aussi, mais le bagne continue.
Oui. Et alors, il va falloir que vienne une menace de Paris en 1832 qui provoque une panique jusque chez le préfet.
Et le préfet des Côtes-du-Nord, à l'époque, n'endort pas la nuit parce que le choléra, on a remarqué qu'il arrivait par des vallées humides. Qu'il arrivait de l'Est, il était déjà à Châteaubriand, il était déjà à Nantes. Et donc tout le monde est en éveil à l'affût de la première trace des symptômes du choléra.
Et évidemment, comme ils boivent pas mal, les bagnards, il y en a un qui a pris une cuite.
Un soir, oui, parce qu'ils n'ont pas de repas, et ils cantinent avec leur argent de poche. L'administration leur laisse une toute petite part de ce qu'ils gagnent. Le reste étant retenu pour le gîte et le couvert. Et il y en a un, il s'appelle Alain, il est un peu aliéné, il pique une bonne cuite, et c'est les mêmes symptômes que le choléra, c'est-à-dire la fièvre, il a des coliques, il rend tous ses tripes. Et le chirurgien en chef, en fait, l'infirmier, on appelait le chirurgien, c'était un peu bien pompeux, il s'affole et imagine que c'est le choléra.
Rassemblement au pied du mât, le drapeau tricolore flotte, le directeur.
Il ne faut surtout pas paniquer. La décision d'évacuer le camp n'est que préventive. Le préfet, prudent et très attentif à votre sort, a décidé d'anticiper l'arrivée du mal. Vous allez donc être déplacé sur la presqu'île de Crozon, où se trouvent des installations pour vous recevoir. Et si le mal progressait vers l'ouest, vous n'avez pas de soucis à vous faire, car vous serez alors immédiatement évacué par bateau.
Ouais, mais vers où ?
Vers Crozon, ils ne reviendront jamais. 1834, signature de la suppression du camp de Glomel.
Oui, mais la tranchée n'est pas terminée. Il y a encore pendant 6 ans, les ouvriers libres vont continuer à creuser. Il manque à peu près le quart. Et l'ouverture officielle du canal se fera le 1er janvier 1840. Le premier avis à la batellerie, disons que le canal de Nantes-à-Brest est ouvert dans sa totalité.
Il apportera beaucoup à votre chère Bretagne intérieure pendant quelques temps, puis la concurrence du chemin de fer viendra. Et puis, dans les années 1920, on installe un lac de retenue après la construction d'un barrage à Guerlédan. Et voilà maintenant une rupture dans le canal. Il n'est plus navigable que sur une partie de son parcours. À votre grande âme, vous partez en pénichette demain ou à la fin de la semaine, Jean-Pierre Gris, sur le canal de Nantes-à-Brest.
Je suis un passionné et puis j'espère qu'un jour, cet AVC qui vient interrompre le flux sanguin à l'intérieur de la Bretagne, de Nantes à Brest, avec les moyens techniques qu'ils avaient eus il y a 2 siècles, j'imagine qu'on peut également aujourd'hui en trouver d'autres qui permettraient de renouveler l'imaginaire de la Bretagne en ouvrant ses voies maritimes, ses voies intérieures, ses voies fluviales dans leur ensemble.
C'est une machine à remonter le temps que de parcourir le canal. Et puis alors, c'est une machine à rencontrer les Britanniques.
et surtout à faire comment dire, à l'apprentissage de la lenteur. Et alors le paradoxe, en effet, c'est ce canal qui a été construit pour lutter contre les invasions anglaises, le blocage de la rade de Brest par les Anglais, et donc qui a été fait pour se défendre des Anglais. Aujourd'hui, c'est eux qui en sont les plus grands bénéficiaires, puisque c'est ce canal qui les attire en priorité. Et les maisons au bord du canal, c'est tous des Anglais qui les achètent. Et je pense que Vauban doit se retourner dans sa tombe.
Mais s'il y avait un canal de la sorte en Grande-Bretagne, on en tirerait un meilleur parti. Encore que maintenant, le canal relève du Conseil régional de Bretagne, du Conseil général de Loire-Atlantique, et que sont organisées toutes sortes de fêtes pendant tout l'été.
Ben, on semble apparemment retrouver le canal. Bon, c'est peut-être un nouveau destin qui s'annonce. Moi, je peux que m'en réjouir, parce que c'est quand même un atout étonnant dans la Bretagne intérieure, un atout touristique, pour peu qu'on essaie de le préserver de toutes ces menaces autour. Il y en a quelques-unes. Et surtout,
est-ce qu'on n'est pas en train de construire à côté de votre chemin, sur l'emplacement du camp de Glomel, un nouveau bagne ?
Un nouveau bagne à poules.
Et
on essaye de lutter contre ça, parce que Ça montre un peu un je m'en foutisme total, à la fois du patrimoine, mais aussi de l'environnement et puis de l'histoire. C'est comme si les intérêts économiques n'étaient qu'aujourd'hui agroalimentaires, alors que cet intérêt économique qu'est ce canal, les élus commencent à en avoir conscience.
Les élus qui organisent donc toutes sortes de festivités dont on trouvera la liste sur notre site, concerts, pique-niques, attention au contrôle Bignou, spectacle par exemple avec la compagnie Casus Délire qui nous signale qu'elle est à Châteauneuf-du-Faou dès le vendredi 1er et le samedi 2 juillet. Merci à vous Jean-Pierre Grist, vos livres aux éditions Keltia Graphique. On trouve aussi les références sur notre site où on peut podcaster cette émission.
Le vieux canal est endormi, il roupille entre ses deux quais. Depuis ce matin, il vaquait à son travail, mais à midi, il a eu droit à une pause. Jusqu'à une heure, il se repose et il profite de la vie. Et rien ne lui fait plus envie que de se chauffer au soleil, qu'il lui se baigne dans le canal. Et l'éclusier, quand il écluse un verre de vin, a des excuses. C'est pour noyer un vieux chagrin, et il commence de bon matin. Le vieux canal n'a jamais le temps de s'arrêter pour bien longtemps. Il lui dit bonjour en passant. Avant de s'en aller plus loin.
Et sur le chemin. Une émission préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard à la réalisation, Jacques Sigal à la technique, Jean-Philippe Jeanne et de Farguerid.